Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Vous savez, Dieu nous a donné son église, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il nous aime.
Et
c'est parce qu'il veut que tu avances avec lui. Et il a tout prévu pour que tu avances avec lui. Maintenant, comme on le dit souvent, c'est de ton attitude que va être, déterminée ton altitude. Meilleure sera ton attitude, plus haut tu iras avec Dieu. Et vous savez, souvent c'est un peu ce qui est dommage avec les chrétiens, c'est qu'au début ils rencontrent le Seigneur et ils sont tout en feu pour le Seigneur. Et puis on a l'impression que des années plus tard, il
n'y
a plus ce feu d'amour qui brûle pour Dieu. Quel dommage. Vous savez que ça arrive à beaucoup de chrétiens dans le monde. Moi je ne sais pas, plus j'avance avec Dieu, plus j'ai envie d'aimer Dieu et plus je suis fou de lui. Plus j'ai envie de connaître. Plus j'ai envie d'aller loin avec lui. Il y a des moments où je prie des choses, je dis, mais Seigneur, j'aimerais tellement être dans cette dimension-là. Seigneur, j'ai accompli si peu pour toi encore. Seigneur, je suis là et ça fait 30 ans que je te connais. Mais j'ai envie tellement d'avoir plus. Tellement de mieux te connaître. On doit toujours avoir ce désir de mieux le connaître, de fouiller dans sa parole. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit vient et il te révèle une facette de Dieu que tu n'as jamais vue encore. C'est pour ça que la parole de Dieu doit rester votre fondation, frère.
Et
que cette parole, vous devez l'aimer. Si tu n'aimes pas suffisamment la parole de Dieu, ça veut dire que tu as un problème, tu n'as pas vraiment découvert les trésors de la richesse que Dieu a mis à ta disposition. Et si tu apprends à connaître ces trésors, à puiser dans ces trésors, tu vas découvrir une vie complètement différente qui va s'orienter tout autour de Dieu. Et Dieu t'amènera dans les choses les plus merveilleuses. Nous en sommes dans l'Apocalypse. Ce livre qui veut dire révélation, ni plus ni moins en grec,
Apocalypsis.
Et nous avons étudié le chapitre 1 et le chapitre 2. En bref, Jean reçoit cette révélation à la fin du siècle. Donc environ plus d'une soixantaine d'années après la résurrection de Jésus. L'église avait une soixantaine d'années, l'église en général. Nous savons que tous les apôtres étaient morts sauf Jean qui était encore vivant quand il reçoit sa révélation. C'est le livre qui va clôturer la révélation que Dieu voulait donner aux hommes. Au début, nous avons des salutations. Nous avons le pourquoi du livre, etc.
etc.
Ensuite, Jésus se révèle à Jean dans une vision. Et là, nous avons vu que Jésus apparaît sous forme glorifiée.
Et
cela peut surprendre parfois.
Même
Jean a été surpris. Jean qui avait vu Jésus ressuscité à plusieurs reprises. Avant que Jésus ne soit glorifié. Et quand Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout
le monde.
Quand dans le ciel il a été couronné de gloire.
Alors
depuis quand il apparaît. Alors il apparaît tel que vous le voyez dans l'Apocalypse. Rempli de gloire et de magnificence. Et tous ceux qui ont eu le privilège de voir Jésus dans des visions. Je parle de chrétiens nés de nouveau.
Et
bien, décrivent le Seigneur exactement comme Jean le décrit. Rappelez-vous d'une chose, quand vous entendez le témoignage d'une vision, vous devez comparer ce témoignage à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir un témoignage qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est très important. Rappelez-vous, la parole, c'est votre fondation. Alors ensuite, Jésus va s'adresser donc à sept églises et va donc donner un message aux sept églises. Ça, c'est à partir du chapitre 2 que nous avons étudié. Et nous avons vu que Jésus donne parmi ces sept églises, ces sept églises qui se trouvaient donc en Asie mineure, la Turquie actuelle. Nous avons vu que c'était comme une sorte de demi-cercle, un peu plus, trois quarts de cercle, en quelque sorte. La seule église que nous connaissons, dont nous avons l'existence dans la parole de Dieu, c'est bien sûr l'église d'Éphèse. Je vous rappelle que certains commentateurs bibliques disent que ces sept églises représentent sept périodes de l'histoire de l'église et je ne suis pas trop d'accord avec ce
commentaire-là.
Alors nous avons vu la première église à qui Jésus s'adresse, c'est l'église d'Éphèse. Et nous avons vu que l'église d'Éphèse était une église dont d'ailleurs nous avons la naissance dans Actes chapitre 19. Cette église avait environ, je dis bien environ, une cinquantaine d'années. Et Jésus en fait montre que cette église est très bien enseignée. Qu'elle porte des fruits, qu'elle a du discernement, qu'elle a éprouvé les faux serviteurs de Dieu. Et le problème que Jésus voit dans cette église, c'est qu'elle a tendance à se replier sur elle-même. Elle a abandonné son premier amour et nous avons vu ce que c'était. L'amour est éprouvé avec le temps et avec l'expérience. Et on donne souvent cette image des fiancés où il y a le premier amour.
Et
ils sont fous d'amour l'un pour l'autre. En tout cas, ne vous mariez pas si votre fiancé n'est pas fou de vous. Parce qu'après, quand il va être marié, si déjà il est très pendant les fiançailles, pendant le mariage, ça va être un congélateur. Parce que déjà, la flamme du premier amour va passer. Et c'est un amour sentimental.
N'urukundo
que beaucoup de chrétiens ont, même des églises qui démarrent très bien peuvent avoir. Mais cet amour doit être éprouvé. Il doit rester fort pour le Seigneur. Il y a cet aspect d'aimer Dieu pour ce qu'il nous donne et ce qu'il fait pour nous. Mais ça, ça reste l'amour humain. L'amour divin, c'est donner sans attendre en retour. Mais vous savez, si vous aimez quelqu'un, obligatoirement, vous allez avoir quelque chose en retour. Mais celui qui aime vraiment, c'est celui qui n'attend rien en retour. Quand tu es tout le temps en train de vouloir pomper les autres en disant moi je veux que tu me donnes, que tu me donnes, que tu me donnes, tu n'aimes
pas.
Ça c'est extrêmement mauvais. Cette église s'était tournée trop sur elle-même. Elle était très bénie. Elle connaissait bien la parole. Elle connaissait profondément Dieu dans le sens de savoir recevoir de Dieu. Mais elle avait surtout oublié d'aller chercher les perdus. Et Jésus vraiment lui reproche ça. Ensuite, il va s'adresser à l'église de Smyrne. Et l'église de Smyrne, c'est l'église qui se laisse marcher sur les pieds, nous l'avons vu. Elle ne vit pas à la lumière de son héritage en Christ. Elle souffre, elle se fait insulter, elle se fait piétiner par les païens. Elle se considère comme pauvre dans tous les domaines dans tous les sens du terme. Et Jésus lui dit non, tu es riche.
Yes, aravuga ati, ariko uri
mutunzi. En fait, tu as tout à disposition, mais tu ne sais pas en profiter.
Ufise byose biri ngaho ku bwawe mugabo ntuzi kubijyako.
Et ça, c'est souvent l'église qui est mal enseignée.
Iri rero n'irya shengero usanga ritigishwa
neza. Des gens qui ont un bon cœur, mais qui ne vont pas loin avec le Seigneur, pas profondément avec le Seigneur.
Abantu bafise umutima mwiza mugabo badashika kure n'Imana.
Genre d'église où on prêche l'évangile, ok, le vrai évangile.
Ishengero bavuga ubutumwa bwiza bwo
kwihana n'icyo. Mais on souffre souvent inutilement.
Ariko ugasanga abantu barakandamijwe barababaye
kandi. On souffre de maladies parce que Dieu peut guérir, oui c'est vrai, Dieu peut guérir, mais selon sa volonté, selon sa souveraineté. Oui, Dieu nous veut pauvres parce que bah, vous savez, la richesse c'est pas bien.
Oui,
c'est le genre d'église qui enseigne ça. En fait,
elle
ne vit pas à la lumière de son héritage. Elle attend le ciel, où dans le ciel tout sera parfait. Mais en attendant, toutes les souffrances et les malheurs nous attendent, nous, pauvres petits chrétiens. Et vous avez que des bébés spirituels dans ces églises-là. Beaucoup de religions aussi, malheureusement. Et le diable joue beaucoup avec ces églises-là. Ensuite, nous avons le troisième type d'église, c'est Pergame. Alors Pergame, c'est une église qui s'est fait envahir par l'esprit du monde. Dans le sens où Pergame aime bien les manifestations. Mais attention, de quel monde spirituel? Et là justement, Jésus leur fait de sérieux reproches de voir des gens qui sont séduits par des esprits sataniques, par des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Et il parle des fameux Nicolaïtes. Et en fait, bien, Jésus leur reproche très sérieusement qu'il y ait des gens encore qui mélangent les deux mondes spirituels, le monde spirituel satanique et celui qui vient de Dieu. Et Jésus leur reproche, fait des reproches et leur demande de se repentir par rapport à ça. Ensuite, il écrit à l'église de Thyatira. Et Thyatira, franchement, il fait de sérieux reproches. Et ce que Jésus reproche à Thyatira particulièrement, c'est de laisser une fausse prophétesse, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui n'est pas un vrai ou une vraie serviteur ou servante de Dieu, qui a la porte ouverte dans l'église de Dieu pour enseigner et faire des choses. Quelqu'un qui est manipulé par les mauvais esprits et qui pervertit même les serviteurs de Dieu. Dans Dans l'église de Pergame, c'était les chrétiens qui étaient touchés par ce genre de choses. Mais là, vraiment, l'Antiatire, c'est les serviteurs de Dieu. Et où il y a justement cette femme, cette fausse prophétesse, qui s'est introduite dans cette église. Et Jésus dit clairement non.
Yes, aravuga ati oya.
Tu le sais, il faut que tu fasses quelque chose.
Urabizi ivyo bintu urakwiye kugira icyo ukora.
En fait, Jésus dénonçait le fait qu'un certain nombre de serviteurs de Dieu étaient au courant de la situation, voyaient clair dans la situation.
Ah, Yesu yariko aragaya ukugene hoba hari umukozi w'Imana umwe canke benshi bari bazi ivyo bintu.
Mais refusaient de faire quelque chose.
Ariko bakareka kugira icyo bakoze na kimwe.
Pour certainement différentes raisons que nous n'avons pas dans l'écriture.
Kubwimvo kumbere zitandukanye tutabona mu ijambo ry'Imana.
Et ça s'appelle le compromis.
Ivyo navyo vyitwa kwivanga.
Dans l'église de Dieu, il doit y avoir.
Mwishengero ry'Imana hategerezwa kubaho
de la discipline.
Ugutunganya, ugutumbera.
La discipline, ça ne veut pas seulement dire de l'ordre dans le sens où on ordonne les gens, on fait des réunions ordonnées.
Ugutumbera discipline mvuga sukugira ibikorane bipanze neza ku masaha canke gutunganya ibintu neza.
Ça ne veut pas dire seulement cela.
Si ibyo bisobanura gusa.
Ça veut dire aussi quand il y a des choses qui dévient.
Nukuvuga ngo niyo habaye ibintu bifashe intumbera itari yo. Bidahuye n'ijambo
ry'Imana. Du péché.
Canke biri mu byaha.
Et que les serviteurs de Dieu qui sont responsables de l'église.
Abakozi b'Imana bajejwe ishengero.
S'ils sont au courant.
Babimenye.
Ils doivent intervenir.
Bategezwa kugira ico babikoze ko.
Ça c'est important.
N'ikintu gihambaye.
Il y a parfois des choses qui se font dans les églises où les serviteurs de Dieu ne sont pas au courant tout de suite en tout cas.
Hari ibintu usanga bikoreka mu ishengero ugasanga abakozi b'Imana ntibashotse babimenya.
Par contre,
ariko
quand on est au courant,
iyo babimenye,
on doit faire quelque chose.
Bategerezwa kugira ico babikoze
ko. On doit ôter le mal au milieu du peuple de Dieu.
Bategerezwa gukura ikibi mu bantu b'Imana.
Si un serviteur de Dieu laisse faire n'importe quoi dans son église,
umukozi w'Imana aretse ibintu bijya ari byo byose bigakoreka,
surtout des gens qui se disent être prophètes, apôtres, toutes sortes de trucs,
cyane cyane nk'ibintu mwene bijya byo kwita abavugishwa ibintu mwene ivyo,
et qui commencent à agir,
hama bigabandanya bikora,
alors que vraiment il y a des esprits sataniques qui travaillent au travers de ces gens-là,
kandi hari impuhwe mu mbizi ziriko zirabakoreramwo,
il faut absolument
bitegerezwa yuko
que les serviteurs de Dieu ou le serviteur de Dieu discipline, c'est-à-dire chasse ce genre de personnes.
Abakozi b'Imana batanga indero no kuvuga bakirukana uwo muntu.
Certains parmi vous, ce genre de choses ne vous disent absolument rien parce que vous êtes né de nouveau quasiment dans cette église, soit dans cette église ou soit vous êtes venu dans cette église en tant que bébé spirituel.
Bamwe muri mwebwe kumbura ibi bintu ndiko ndavuga ntacho babwiye kobera ko kumbure mwashi.
Donc vous n'avez jamais vu ce genre de choses parce que nous avons toujours protégé les chrétiens d'une façon draconienne ici. Mais je peux vous dire une chose. J'ai entendu des sacrées histoires de gens qui commençaient à travailler pour le Seigneur, des gens qui démarraient des églises, des gens qui avaient un bon cœur et qui ont vu ces loups venir dans les œuvres de Dieu.
Ils ont fissi ayo mabingira aje mu bantu b'Imana.
Et se retrouver avec des églises divisées en deux avec ces loups.
Nyuma yaho ayo mabingira aje ugasanga amashengero yigabuyemo kubiri.
Des fausses prophéties qui ont été données, des manipulations.
Ubuvugishwa bw'ibinyoma bugatangwa kwifatira.
Des gens qui se sont introduits dans les églises.
Abantu ugasanga binjiye mu mashengero.
Pour faire beaucoup de mal.
Bakagira nabi cyane.
Ça existe, frères et sœurs.
Ibyo birabaho, bene data.
La parole de Dieu nous en parle.
Ijambo ry'Imana rabitubwira.
Nous ne devons pas en avoir peur, mais nous devons être au courant.
Nidukwiye kubitinya ariko dukwiye kubimenya.
Que tristement parfois.
Kuko birababaje urumva.
Il y a un certain nombre de choses qui sont faites dans des églises. Et c'est terrible. Cela crée beaucoup de désordre dans les chrétiens. Les gens sont confus. Ils ont été séduits. Jusqu'à ce que des serviteurs de Dieu même aient été séduits par des choses. Et parfois c'est terrible. Je me rappelle quand nous étions aux États-Unis. Il y avait une église qui marchait très très bien pendant un temps. Et le pasteur a commencé à être séduit par des choses fausses, des doctrines complètement fausses. Jusqu'à remettre en question la divinité de Jésus. Et il y a d'autres pasteurs qui ont été offusqués par rapport à ça. Ils ont été le voir et ils ont dit, mon frère, on entend ça et on l'a entendu même à la télévision parce qu'ils faisaient
de
la télé. Et ils étaient extrêmement inquiets pour ce pasteur.
Un homme
homme de Dieu qui avait vraiment une belle église.
Mais
qui a complètement disjoncté. Et c'est complètement écarté de la vérité. Et ça arrive, frères et sœurs. Tristement. Et comme il était en charge de son église, et qu'il a commencé à croire des mensonges, à prêcher n'importe quoi, alors qu'il prêchait très bien. Il y avait plein de gens qui se sont convertis à l'époque où ça marchait bien.
Je sais plus,
il faisait 2 ou 3 cultes, 4 cultes, je crois, dans son église. Il voulait construire un immense bâtiment. L'église marchait très bien. Mais cet homme s'est laissé séduire.
Vous
savez, parfois, il y a des choses qu'on voit, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui marchait bien, d'un seul coup, dévie? C'est pour ça que la parole doit être toujours notre référence. On ne construit aucune église sur une révélation ou sur un don. On construit une église sur la parole éternelle de Dieu. C'est elle notre référence. C'est pour ça que c'est vraiment indispensable à comprendre. Vous savez, il y a des courants des fois qui viennent contre les églises. Des trucs très bizarres qui viennent des courants à droite à gauche de doctrine et qui amènent des gens dans des erreurs mais évidentes. Et très souvent ça commence par des gens soit qui sont de faux serviteurs de Dieu ou soit des serviteurs de Dieu qui ne sont pas bien fondés dans la parole et qui se font séduire par des esprits sataniques pour commencer à prêcher, à enseigner des choses qui sont fausses. Et ça amène toutes sortes de choses horribles dans des églises. Alors, nous avions vu à la fin de cette église que Jésus ne faisait pas d'amalgame entre ceux qui ont continué à le suivre et ceux qui vraiment ont dévié. Alors, maintenant, nous allons voir le chapitre 3 et nous allons regarder l'église de Sardes. Parce que ici, ça va nous enseigner aussi un certain nombre. Il est dit, écris à l'ange de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset suivant. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, cette église, nous allons le voir, elle était presque morte, évidemment, comme ça a été dit ici. Alors, certains ont dit, oui, vous voyez bien, c'est la période de l'église médiévale où il y avait l'église catholique qui s'était emparée du message de l'évangile. Alors encore, je n'aime pas du tout ce genre de commentaire. Parce que quand on voit Jésus va venir, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Franchement, ces interprétations, pour moi, ça n'a aucun sens. D'autre part, nous ne sommes pas là pour aller critiquer et dénigrer les autres. Vous savez, quand les gens sont constamment en train de taper sur les autres, c'est qu'ils ont un problème. Nous sommes là pour construire. Après, c'est les gens eux-mêmes qui discerneront ce qui est vrai et ce qui est faux. On n'est pas là pour aller nommer les gens.
Par
exemple, moi, parfois, je vois des pasteurs qui parlent ouvertement d'autres pasteurs. Ils les nomment directement.
À partir
du pupitre. Ce n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas à dénigrer les autres. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Notre rôle est de construire dans l'amour pour que le peuple de Dieu puisse avancer. Et quand le peuple de Dieu a de la maturité, il a du discernement. Et il apprend lui-même.
En disant,
ça vient du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Alors cette église, c'est clair que c'était une église qui était presque morte. Et il y avait un mélange des faux et des vrais chrétiens. Donc Jésus commence et il dit, voici ce que celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Et Jésus ici nous montre que en fait c'est lui qui met ses serviteurs en place. C'est lui qui gère son royaume. C'est lui qui met les onctions sur ses serviteurs. C'est lui qui décide pour son église. Et qui dirige son église. Alors cette église, Jésus dit, je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es morte. Cette église était devenue quasiment une institution, c'est-à-dire que finalement, elle s'appelait église, mais il n'y avait pas la vie de l'esprit. Et vous savez, il est très important dans l'église de Dieu d'avoir un équilibre entre la parole de Dieu et la présence de Dieu. La vie de l'esprit est quelque chose qui est indispensable. C'est l'esprit de Dieu qui transmet la vie. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie à son Église. L'Esprit de Dieu qui montre les directions de Dieu. Qui communique la pensée de Dieu. Qui révèle la parole de Dieu. Qui encourage. Qui fortifie. C'est la vie de l'Esprit. Qui permet vraiment à l'Église de toujours avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Quand dans une église vous n'avez quasiment pas d'onction, les gens, on a l'impression qu'ils sont comme aveugles. Moi dans ma vie j'ai fait partie de certaines églises où l'onction était extrêmement faible et on était un peu comme des aveugles, on ne savait pas vraiment quoi faire, où aller, comment. On disait des choses sur Dieu, mais c'était bien gentil, mais il y avait beaucoup de choses qu'on disait qui étaient fausses. Mais on ne le savait pas. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de révélation de la personne de Jésus, de Dieu le Père, de la parole de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est là et travaille les cœurs, la vie de Dieu est infusée à ce moment. Si tu veux vivre une vie avec Dieu qui est forte, qui est puissante, tu as besoin que le Saint-Esprit vienne. Tu as besoin de vivre dans sa présence. Tu as besoin d'une révélation de sa puissance. Et c'est dans sa présence. Et cette église, elle se disait, on est vivant nous, on est fort, mais en fait elle est morte. C'est-à-dire que la vie de Dieu, on l'a cherchée au microscope. Et des fois il y a des églises qui deviennent cela. Vous rentrez, on appelle ça une église, il n'y a pas la vie de Dieu.
On sent
qu'il n'y a rien. Même si vous êtes loin, même si vous partagez une bonne parole, vous avez l'impression de vous adresser à un mur. Mais ça fait mal.
Vous
êtes là.
Vous
portez la parole.
Mais vous
avez l'impression qu'il n'y a personne devant vous. Parce que les gens n'ont pas soif. Parce que les gens ne sont pas dans la vie de Dieu. Parce qu'il y a plein de mentalités, de pensées qu'ils ont. Qui sont fausses. Qui ne laissent pas la parole de Dieu pénétrer leur cœur. Qui empêchent la vie de Dieu de se manifester. L'église devient quelque chose de formel. On est rentré dans des habitudes. Mais il
n'y
a pas la vie divine. Des fois, on fait même semblant que Dieu agit alors qu'il n'agit pas. Et vous voyez, ça, c'est vraiment dommage. Il y a tellement d'églises qui ne comprennent pas que la vie de l'esprit, c'est indispensable. Nous en avons besoin tous les jours. Que ce soit dans ta vie personnelle. Parce que rappelons-nous que l'église c'est nous frères et sœurs. L'église c'est pas un bâtiment. Moi quand je vois des gens qui disent être vivants pour Dieu, bon c'est vrai ils parlent de Jésus, mais ils connaissent même pas le baptême de l'esprit. Ils savent même pas discerner quand quelque chose est dit, si ça vient de Dieu ou pas. N'importe qui peut venir et les tromper. Au nom du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de vie. Ils prient, ils voient rien. Ils sont dans des trucs bizarres. Vous parlez avec eux. Vous sentez qu'il n'y a rien qui passe. Vous leur demandez leur témoignage. Il vous dit, j'étais catholique, je suis protestant. Je suis baptisé chez les protestants maintenant. Hein? Est-ce que le baptême d'eau sauve? Est-ce que le baptême d'eau amène la vie de Dieu? Non, le baptême d'eau est une obéissance. Dieu nous demande d'obéir à sa parole. Mais tellement de gens à qui on pourrait parler ne sont même pas capables de vous donner un témoignage d'une vie transformée. Au verset 2, Jésus dit, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc Jésus la prévient qu'elle va complètement mourir si elle continue comme
ça.
Le problème, c'est qu'elle se croit être vivante alors qu'elle est morte. Et Jésus lui dit, réveille-toi. Moi, je vais te dire que ça ne va pas. Je vais te dire qu'il va falloir complètement que ta vie, entre guillemets, ta vie d'église soit transformée. En tant qu'église, réveille ce qui est encore réveillable. Alors il lui dit clairement, sois vigilant. Alors littéralement ça veut dire la chose suivante. Fais attention de ne pas être trop molle, c'est-à-dire de t'endormir complètement. Pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir de soudaines calamités destructrices. Ça implique beaucoup de choses, ce mot. Tu risques d'être surpris par des choses qui vont venir te détruire. Donc Jésus la prévient clairement, fais attention. Il y a des choses qui vont t'achever si tu continues comme ça. Il y a des choses qui vont venir contre toi. Et là, ça va être la fin. C'est là où Jésus lui dit, sois vigilante. C'est vraiment le sens ici. Donc faites très attention. Si tu continues comme ça, tu vas vraiment, vraiment mal terminer. Ensuite, Jésus lui dit d'affermir. Deuxième conseil. Bien sûr, c'est cet aspect de rendre ferme. Mais ça veut vraiment dire, c'est dans le sens de prendre des résolutions. Prends des résolutions avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que Dieu dit à cette église. Tu es là, tu es quasiment morte. Fais attention parce que si tu ne te reprends pas, si tu ne changes pas, alors tu vas vraiment mourir. Il va y avoir une calamité soudaine qui va venir sur toi. Quelque chose qui va t'achever. Donc il faut que tu t'affermisses. Faut que tu prennes des résolutions. En fait, il faut que tu expérimentes un réveil. Une transformation complète. C'est le genre d'église, vous voyez, qui vraiment a besoin de se mettre à genoux et de dire: Seigneur, qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à ta parole? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire par rapport à ce que tu nous montres dans ta parole? Nous sommes complètement éloignés maintenant. Ta parole nous montre tes œuvres, nous montre des gens qui se convertissent, nous montre des gens qui ont des vies changées, des gens qui sont remplis, des gens qui sont guéris, des gens qui sont prospères, des gens qui sont transformés. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on se réunit, on s'appelle l'église de Jésus-Christ, on dit qu'on appartient à Dieu, on a une Bible dans les mains. Seigneur, pardon. Vous savez, Dieu a visité plus d'une fois les églises qui étaient quasiment mortes, les églises qui ont été vraiment transformées, parce que d'un seul coup il y a quelqu'un, celui souvent qui a la tête, le pasteur, et aussi un certain nombre de gens qui sont parmi les responsables, qui se sont vraiment vraiment humiliés devant Dieu, et Dieu les a visités. Je me souviens de l'histoire d'une église en France comme ça, où le pasteur ne connaissait pas le baptême de l'esprit. Ils
venaient
d'une dénomination où on ne croyait pas dans cela. Et à l'époque, il avait une petite église.
Et
il a cherché la face de Dieu. Il a regardé ce qui se passait ailleurs. Il voyait des gens qui étaient vivants. Et lui-même était baptisé de l'esprit. Et il a ouvert l'église au baptême de l'esprit. Il a commencé à amener des enseignants de la parole. Il s'est ouvert à plein de choses. Et son église, pendant une période, était quasiment la numéro 1. Tellement elle avait grandi. Et tout le monde parlait de cette église. Et quelques 10, 15 ans avant, elle était quasiment morte, complètement endormie. Donc il y a toujours de l'espoir pour un serviteur de Dieu quand il commence à réaliser la condition dans laquelle son église se trouve. Et Jésus le dit clairement. Jésus lui dit ensuite: car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, la deuxième partie du verset 2. Alors ici, l'idée des œuvres parfaites, c'est de la maturité. C'est-à-dire, en fait, tu as des fruits, mais ces fruits sont verts, ils ne sont pas mûrs, et ils pourrissent. Ils ne viennent pas à maturité.
Au
bout d'un moment, ils pourrissent parce que, de toute façon, ils sont immangeables. On ne peut pas en profiter. Et Jésus lui dit clairement: fais attention. Tu commences à essayer de porter quelques fruits, mais ces fruits ne sont pas bons. Ensuite, Jésus va dire quelque chose de très important. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Je vous rappelle que Jésus nous donne toujours une porte pour la repentance. Dieu n'est pas le Dieu qui dira: c'est terminé, je ne veux plus jamais entendre parler de toi. Maintenant, plus on endurcit notre cœur, plus c'est difficile de revenir. Et plus nous faisons de graves erreurs. Et c'est vrai pour les églises aussi. Il y a des églises qui persévèrent dans des choses qui ne vont pas du tout. Et qui se retrouvent par terre. La vie de Dieu est enlevée. On est dans des choses complètement institutionnelles. Des habitudes. Je vais vous donner un exemple comme ça dans le mouvement protestant. Les églises méthodistes sont nées à partir d'un homme de Dieu qui était puissamment utilisé en Angleterre. Cet homme s'appelait John Wesley. Je vous en ai parlé parfois à des cultes. Et John Wesley, il vivait au 19e siècle. C'était un anglican, John Wesley. Et il est d'ailleurs toujours resté dans l'église anglicane, et l'église anglicane lui a fait beaucoup de misère. L'église anglicane, c'est l'église qui était issue de la réforme. Au 16e siècle. Et en fait, les Anglais ont toujours voulu faire bande à part en quelque sorte. Où ils voulaient se séparer de Rome parce que Rome, au travers du pape, gouvernait l'Europe de l'Ouest. Et à l'époque, beaucoup de pays voulaient se débarrasser du joug du pape, du joug politique. Et les Anglais ont fait leur sauce. Ils ont pris une partie de la réforme protestante. Ils ont gardé une partie des traditions de l'Église catholique. Et ils ont créé l'Église anglicane, qui était vraiment spécifique à l'Angleterre. Et donc, il y avait ce John Wesley, dont la mère était une anglicane, qui priait vraiment pour ses enfants, très fortement. Et John Wesley, pensant qu'il était sauvé, a été à l'époque dans les colonies en Amérique, et il a prêché aux Indiens, et il
ne
s'est rien passé. Et il est retourné en Angleterre en disant, vraiment c'est terrible, très découragé. En fait, il n'était pas sauvé. Il était là pour prêcher une religion. Donc, ce n'était pas étonnant qu'il ne se passe rien. Les Indiens d'Amérique n'ont absolument pas du tout reçu le message. Ils prêchaient de la religion. Mais quand il est revenu en Angleterre, il a été découragé. Et là, il a fait vraiment une expérience personnelle avec Jésus. C'est là où il est né de nouveau. Il est né de nouveau et il a été visité par le Saint-Esprit. Et cet homme a été rempli du Saint-Esprit. Il a été baptisé de l'Esprit, mais aussi il était oint pour un puissant ministère. Et il partait partout en Angleterre. Il prêchait l'Évangile avec puissance. Les gens étaient visités par l'Esprit de Dieu. Il y avait des grandes foules. Il prêchait à des foules de plus de 10 000 personnes sans aucun micro, sans aucune baffle. Parce que ça n'existait pas à l'époque. Et croyez-moi, prêcher devant 10 000 personnes sans amplificateur, ça fait mal à la voix. Mais il y avait plein de gens qui étaient touchés par la puissance de Dieu, qui se repentaient, qui pleuraient sur leurs péchés, qui étaient remplis de l'Esprit, qui étaient ivres dans l'Esprit. Dans certains écrits des réunions de John Wesley, les gens étaient ivres de l'Esprit. Ils étaient visités par la puissance de Dieu, ils tombaient partout. Cet homme a amené un réveil en Angleterre qui a évité un bain de sang du type de la Révolution française. Les Anglais au 18e siècle ne se sont pas battus, ils n'ont pas eu de guerre civile comme les Français, parce que eux ont accepté le Seigneur en masse. Grâce à cet homme de Dieu. Ensuite, il est parti dans les Amériques. Et là encore, il a vu beaucoup de choses se produire. Quand il est mort, bien des années plus tard, il y avait ses suiveurs. Et comme John Wesley était quelqu'un de très très intelligent, c'était un homme extrêmement éduqué et en même temps très spirituel. Il avait l'habitude d'utiliser un certain nombre de méthodes. Il appliquait la parole par méthode. Et alors ses suiveurs utilisaient les méthodes de John Wesley. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les méthodistes. C'est l'histoire des méthodistes. Et en fait, quand on voit la puissance de celui qui, je dirais, a été l'initiateur,
et
des années, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, un siècle plus tard, dans les églises méthodistes, il n'y a plus du tout. Ce que John Wesley faisait. Et voyez, c'est dommage. Parce que vraiment, la parole de Dieu nous dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la. Venir aux sources régulièrement. Il y a plusieurs fois quand il y a eu des réveils dans l'histoire de l'Église. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui se sont mis devant le Seigneur et qui ont cherché l'origine. C'est-à-dire quoi ? Comment ça se passait dans l'Église dite primitive, c'est-à-dire du premier siècle ? Qu'est-ce qu'ils prêchaient? Comment est-ce qu'ils vivaient? Qu'est-ce qu'ils voyaient? Comment ils s'organisaient, etc. Et Jésus ici les exhorte, il leur dit non, reviens à la fondation. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Rappelle-toi ce que tu as vécu à l'origine. Et garde-le. Jésus disait, tu as dévié. Tu t'es enfoncé dans des trucs où c'est complètement mort. Tu as remplacé ce qui permettait à ma vie de passer par des trucs religieux. Tu as, en fait, la religion, c'est un placebo. C'est un placebo. C'est quelque chose que vous mangez pensant aller et être bien avec Dieu et on court en enfer avec la religion parce que c'est un remplacement qui n'a rien de spirituel, qui amène la mort. La mort dans la religion, dans la tradition, il y a la mort. Là où il y a la vie, c'est dans la parole. Et Jésus leur dit clairement, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Reviens à l'origine, reviens à ce que tu as eu au départ. Souvent, c'est le problème d'église ou même de chrétiens. J'ai vu des églises qui étaient visitées par Dieu des fois, incroyables. Qui ont tout perdu. Tout perdu. Parce qu'elles n'ont pas su venir à la source de la parole. Ils ont voulu vivre des choses. Et ils ont vécu pendant une certaine excitation pendant un certain temps où l'Esprit de Dieu pouvait effectivement travailler, mais ça s'est mal terminé parce que ces églises là n'avaient pas les fondations de la parole, de l'origine, et après elles ont dévié. Certaines se sont complètement endormies. Des églises dont on parlait presque dans le monde entier pour certaines d'entre elles, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, spirituellement, des onctions incroyables. Et là, vous rentrez dans l'église. C'est difficile de voir des gens animés par la vie de Dieu.
Et
oui, frères et sœurs, ça existe. Jésus nous en parle ici. Jésus nous en parle. Donc Jésus dit, reviens à l'origine, reviens à la parole, reviens aux bases. Puis Jésus dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Et là, évidemment, ça nous parle du retour de Jésus. Je viendrai comme un voleur, entre guillemets. Prendre mon église. Jésus n'est pas un voleur, mais c'est une image ici qu'on utilise, bien sûr. Et frères et sœurs, là aussi, je tiens à vous alerter. Ce que nous voyons avec nos yeux, ce n'est pas la vraie église de Dieu. Dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se réclament du christianisme. Beaucoup de gens disent, moi je suis chrétien, moi j'appartiens à telle église. Et rappelez-vous que ceux qui appartiennent à Jésus, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau. Ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Pas qui viennent dans un lieu pour avoir une espèce de religion chrétienne. Ou même, entre guillemets, prier. Rappelez-vous que Jésus est dans le business de la transformation des vies. Il n'est pas dans le business d'avoir une Bible, de passer par un baptême, etc. Ce sont des moyens, des outils, ok. Mais ce n'est pas ça qui fait la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est quand quelqu'un se reconnaît comme pécheur, à cette conviction de la part du Saint-Esprit. Et sait que s'il continue comme cela, et qu'il meurt physiquement, il va en enfer. Il le sait. Et c'est pour ça que cette personne crie à Dieu. Et dit, Seigneur, au secours, je suis perdu. La Bible nous parle d'être sauvé. Comment est-ce que tu peux dire « je veux être sauvé » si tu n'as pas conscience que tu es perdu? Quelqu'un ne peut pas crier « au secours » s'il n'a pas conscience qu'il y a un danger. Si tu dis à quelqu'un « ta maison brûle », sors de ta maison, elle brûle, tu vas brûler avec. Et que la personne te regarde en disant « mais non, ma maison ne brûle pas ». Et tu dis, si, sors de ta maison, elle brûle. Et la personne te dit, non, ma maison ne brûle pas. Et bien la personne va être brûlée. La personne va être brûlée dans sa maison. Et mourir. Tu ne peux pas crier à Dieu et implorer sa grâce, le secours de son pardon quand tu n'as pas été convaincu de péché et que tu n'es pas convaincu que si tu meurs tu vas en enfer.
Et
il y a des gens qui sont bourrés d'illusions et leur témoignage n'est pas un témoignage de changement radical de vie. Et frères et sœurs, il faut qu'on soit extrêmement clair quand nous prêchons l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est pas viens à l'église El Shaddai. L'église est une pépinière pour grandir, on est d'accord. Et je le dis et je le redirai, c'est pas l'église qui s'ouvre. Ou fais-toi baptiser. Ou arrête de boire. Arrête de mentir. Ça, c'est des leçons de morale. La morale est bonne pour tenir un peu la chair en bride, mais la morale n'amène pas au ciel. Soyons clairs. Une vraie repentance va être un abandon des péchés, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas de d'arrêter certains péchés qui font qu'une personne va être
sauvée.
Soyons bien clairs. Jésus donne une parole qui est très dure dans Matthieu 7, 23. Mais qui est d'une grande réalité. Matthieu 7, verset 23. On peut lire juste un peu plus haut peut-être. Il est dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais quoi? Connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe niho nzobajinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya mviraho mwabakora ibiziramwe.
Alors ici c'est très clair. C'est ce verbe connaître qui est la clé ici. Il y a des gens qui sont très contents parfois. Je me souviens un jour d'un garçon. On était à l'époque au méridien. Et puis il était juste venu. Et il y avait vraiment une onction de joie qui était descendue ce jour-là sur la réunion.
Et
puis, il habitait juste à côté de chez nous. Puis un jour il est venu nous voir. Il
disait,
ah oui, je suis venu au méridien. Et ce jour-là, il l'a dit en français, mais ça voulait bien dire ce que ça voulait dire pour le Kirundi. Il disait, j'étais très très content ce jour-là, j'étais très content.
Il y a beaucoup de joie en fait. Ce qui veut dire,
j'avais beaucoup de joie. C'est bien. C'est pas ça qui amène au ciel. Il y a des gens même qui sont guéris dans les croisades d'évangélisation. Il y a des gens pour qui tu pourras même prier qui vont être guéris. Qui sont stériles et qui vont avoir des enfants après ta prière. Qui vont vivre des expériences. Mais ce n'est pas le salut. Le salut n'est pas voir Dieu intervenir parce qu'on l'a prié par rapport à quelque chose. Frères et sœurs, il faut que nous conservions le message pur de l'évangile. Parce qu'on a tendance à dévier dans beaucoup de domaines, souvent. Viens à l'église, va prier, ça ira mieux. Oui et non.
Vous
savez, il y a des gens qui viennent parfois dans les églises.
Ouais.
Il y a des gens qui prennent rendez-vous avec moi parce qu'ils ont des problèmes. Mais quand je vois que le cœur ne veut pas se repentir, je dis, vous savez, je ne suis pas un psychologue. Hein? Ou un conseiller conjugal. Vous savez, des fois, les gens ont l'image comme ça d'un pasteur où c'est quelqu'un qui doit, il est là pour aider. Oui, on est là pour aider, mais... Il y a des lois spirituelles. Il faut être clair avec les gens. Il faut clairement leur montrer que s'ils ne veulent pas se repentir sincèrement, Dieu ne pourra pas vraiment les transformer. L'issue de l'évangile n'est pas la guérison. Soyons clairs. Ou une provision surnaturelle quand il y a un problème sérieux de finance. Ou amener la paix ou quand ça ne va pas. Mais l'issue de l'évangile, c'est que des gens sortent du royaume des ténèbres. Là où ils sont la propriété de Satan. Qu'ils sortent de là. En naissant dans le royaume de Dieu. C'est l'issue de l'évangile, frères et sœurs. Le reste, c'est très bien. Mais ça n'amène pas au ciel. Sans la nouvelle naissance. Et ce monsieur, ce jeune homme. Ah, il était très content ce jour-là, il nous avait raconté ça. Sauf que quelques temps après, il nous annonce qu'il allait se marier. Puis j'ai dit, mais tu vas te marier dans quelle église? Et là, il était un petit peu gêné. Parce qu'en fait, il a fait son mariage dans un hôtel. posé beaucoup de questions là.
Il
est venu un jour.
Yaraje
vraiment, le Seigneur lui a fait du bien.
Imana iramugirira neza.
Mais il ne porte pas les fruits.
Ariko nta vyamwa ariko ara.
Quand vous lisez l'Écriture, le Nouveau Testament,
il y avait
quelqu'un qui était très agacé avec ce genre d'attitude. Il s'appelle Jacques. Jacques chapitre 2. Jacques, il était très agacé. Quand vous lisez son épître, vous sentez que Jacques était agacé. À tel point que certains ont remis en doute l'authenticité de l'épître de Jacques.
Enfin,
l'inspiration, je dirais plus précisément. On va lire à partir du verset 14 au chapitre 2, 14. Alors, il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver?
Alors
quand on vient dans tel texte, on se dit, mais attends, bien sûr que la foi sauve. Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est vraiment la foi, la grâce, c'est vraiment les fondations. Éphésiens chapitre 2 nous en parle très largement. L'épître aux Romains nous dit que nous sommes justifiés par la foi. C'est-à-dire que nous pouvons, grâce à notre foi, nous avons été déclarés justes. Notre foi en Christ, bien sûr, dans l'œuvre de Jésus. Et c'est très clair que depuis que nous sommes nés de nouveau, justifiés par la foi, nous qui n'avions aucun droit de nous présenter devant Dieu, maintenant Dieu nous considère comme son fils, sa fille, et il nous accepte parfaitement comme si nous n'avions jamais péché. Et nous pouvons être là dans la présence de notre Dieu, de notre Papa Céleste, sans sentir une condamnation quelconque ou une infériorité, comme si on était des mendiants. Voilà en gros ce que c'est qu'être juste. Mais là quand même, Jacques se permet de dire quand même, est-ce que la foi seule va sauver? C'est la question qu'il pose. Puis après, il parle d'aider quelqu'un, ok? Ensuite, verset 16. Si quelqu'un dit, voilà, allez en paix, alors qu'il y a des indigents, etc., etc., et vous le faites, alors franchement, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez pas d'amour.
Verset 17.
Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et Jacques va continuer. Et il dira, verset 18, mais si quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi par mes œuvres, je te montrerai ma foi.
Il
y a tout un passage sur la foi ici. Bon, je vais pas trop détailler parce que sinon ça prendrait trop de temps.
Mais
quand vous lisez Jacques chapitre 2, vous allez voir, et on a l'impression qu'il remet presque en cause le message que nous sommes sauvés par la foi.
Mais
en fait, l'idée de Jacques n'est pas là. L'idée de Jacques, c'est qu'il avait vu des gens qui se disaient chrétiens, mais qui n'emportaient pas les fruits. Et c'était ça qui agaçait Jacques. Donc l'épître de Jacques est très dur. Si vous la lisez, c'est vraiment très dur ce qu'il dit.
Il tape
beaucoup sur les gens qui finalement se disent chrétiens,
Mais en fait, ils
n'ont pas de vie transformée.
Ils se
disent appartenir au Seigneur,
mais
ils sont morts.
Et
ils se disent vivants, mais ils sont morts.
Et
Jacques leur dit très bien, tu dis que tu as la foi.
Mais ça veut dire,
tu dis que ta vie a été changée par Jésus.
Mais
montre cela par une vie
extérieure.
Jacques disait ni plus ni moins, si l'intérieur est transformé,
ça doit
se manifester.
Si on ne
voit rien à l'extérieur,
c'est un
mauvais signe. Parce que quand quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel,
quand
la vie de Dieu
coule,
obligatoirement, au bout d'un moment, il y a des fruits.
Et
Jacques dénonçait cela.
Il
disait finalement, vous vous dites chrétien,
mais
finalement, vous êtes des religieux.
Vous êtes
morts à l'intérieur. Parce que vous ne manifestez pas de par une transformation intérieure
des
fruits qui sont visibles de l'extérieur.
Et
c'est exactement la condition de l'église dont nous parlons ici.
De
cette église
qui
est là dans l'Apocalypse,
qui
se pensait vivante
et qui
était morte,
qui
était complètement morte.
Cette
église qui finalement va se retrouver confuse
si
Jésus revenait.
Et
c'est là où Jésus dit, fais attention, si tu ne veilles pas, je viendrai, verset 3, comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre.
Et ça,
c'est clair.
Quelqu'un
qui est changé à l'intérieur,
ça
va se voir à l'extérieur.
Dans
ses comportements,
dans
ses langages,
dans
sa façon dont il va voir Dieu,
dont
il va voir les autres.
Quelqu'un
qui est sauvé,
Dieu
devient le centre de sa
vie.
Ses décisions sont prises en consultant Dieu, sa parole et bien sûr son esprit.
Sa
vie évolue autour de la personne.
C'est
pas quelqu'un qui est là et qui dit, moi je vais dans telle église, je fréquente telle église.
Il
y a la vie de Dieu quelque part. C'est quelqu'un qui va nettoyer sa vie.
On va
avoir un changement.
C'est pas
quelqu'un à qui tu devras dire toutes les 5 minutes, bien maintenant que tu es chrétien, maintenant que tu es chrétien,
tu ne
vas pas aller lui dire ça toutes les 5 minutes, maintenant que tu es chrétien,
tu ne
dois plus faire ça, tu ne dois plus faire
ça, etc. Non. Quand
la vie de Dieu vient dans une personne,
cette
personne elle-même se pose des questions en disant, mais est-ce que ça plaît au Seigneur
finalement?
Je fais ça, mais c'est de ma vie passée, j'ai l'impression que je
ne suis pas en paix avec ça. Mais la
personne ne veut qu'une chose.
C'est
plaire au
Seigneur.
Parce qu'elle a la vie divine
en elle. Que
le Saint-Esprit est en elle.
Il y a
quelque chose qui se
manifeste. Quand
je reprends l'histoire de ce garçon tout à l'heure,
très
gentil, il voulait être béni, il était béni.
Vous savez,
comme les foules qui venaient à Jésus pour être
guéries.
La Bible dit à plusieurs reprises,
ils
ne se fiaient pas à eux.
Parce qu'ils
savaient ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme.
Frères
et sœurs, l'église de Dieu,
c'est
celle qui a été transformée par sa puissance,
c'est
celle qui suit le Seigneur,
pas
celle qui veut une religion,
pas
celle qui veut quelque chose de sympathique.
Une
bénédiction à droite, une bénédiction à gauche. Oui, la puissance de Dieu et les signes de Dieu attirent les inconvertis. Mais rappelez-vous, une guérison n'est pas égale à une nouvelle naissance. Ce n'est pas la même chose. Il y a parfois des gens qui sont guéris et qui viennent dans les églises
mais
qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Quand vous parlez avec eux, ils ne sont pas capables de vous montrer la vie divine en manifestation dans leur vie.
Ils
vous diront, oui, il y a un monsieur, un pasteur qui a prié pour moi un jour. J'ai été guéri, il y avait beaucoup de monde ce jour-là, c'était au stade peut-être ou dans une grande salle. Donc maintenant, j'ai décidé de changer de religion. Ça n'amène pas au ciel, ça. Non.
Oh, yeah.
La personne a été guérie, oui, gloire à Dieu. Mais
ce
n'est pas ça qui l'amène à la nouvelle naissance. Ça va provoquer sa foi, lui montrer l'existence de Dieu, lui montrer l'amour de Dieu. Mais en aucun cas, guérison égale nouvelle naissance. Quelqu'un peut avoir des ennuis, par exemple financiers, vous priez pour lui. Et comprenez bien ce que je veux vous dire ici. Priez pour qu'il y ait des miracles qui se produisent chez les inconvertis. C'est très bon pour les provoquer à la foi et à la repentance. Mais ce n'est pas obligatoire qu'ils se repentent. Vous comprenez la différence? Il nous faut la puissance de Dieu en démonstration vis-à-vis des inconvertis. Parce que cela, à ce moment-là, ça les provoque quelque part. Ça leur montre que Dieu existe bien et qu'il est personnel. C'est-à-dire qu'il peut agir dans la vie de la personne. Mais ce n'est pas un signe de la vie de Dieu au niveau du salut. Faites bien la différence. Et partout où vous allez, quand vous partagez Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus, insistez bien sur ça. Parce que des gens qui veulent être bénis, mais il y en a partout, qui, franchement, quel est l'être humain qui dirait « je ne veux pas de cadeau » Si tu as un besoin particulier, est-ce que tu vas dire non, je ne veux pas. Non, j'en veux pas. Je ne veux pas qu'on me le donne. Je veux travailler dur pour ça. Non, chaque personne dira, ah ben, si je peux l'avoir gratuitement, c'est la première option que je vais prendre. C'est normal. Nous sommes des êtres humains. Et quand on peut avoir quelque chose sans se fatiguer, ou la même chose en se fatiguant beaucoup, je pense que chacun d'entre nous, nous prendrons le raccourci pour avoir la chose gratuitement. C'est normal. Mais ça, ce n'est pas synonyme de salut. Ne confondez jamais quand vous parlez à des inconvertis avec le fait de prier, d'avoir des exaucements de prière. Moi, je n'aime pas quand les gens me disent « Oui, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. » Un jour, je priais, je n'avais pas de quoi payer mes frais de scolarité, ce que vous appelez Minerval ici, et vraiment, quelqu'un est venu me voir et m'a donné ça. Bon, d'accord, ça c'est bien. C'est une expérience avec Dieu. Ce n'est pas le salut. Oui, un jour j'étais malade et il y a des chrétiens qui sont venus me voir. Ils ont prié pour moi et j'étais guéri.
C'est
très bien. Mais ce n'est pas le salut. Ah, depuis que je prie, vraiment mon business va bien. C'est bien.
Mais
ce n'est pas ton témoignage de salut. Ne confondez pas, frères et sœurs. Soyez très clairs par rapport à ça. Et faisons bien attention. Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'évangile pour ce qu'ils peuvent en tirer, mais qui courent en enfer. Et ça, c'est un drame. personne d'entre nous, nous puissions être coupables, entre guillemets, d'avoir donné un évangile qui était un faux évangile. L'évangile est clair. Jésus est dans le business de la transformation des
gens,
du passage du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, au travers de la nouvelle naissance, d'un miracle radical qui amène sa vie dans le cœur, dans l'esprit d'une personne, et qui révolutionne complètement,
complètement
cette personne. La prochaine fois, nous continuerons avec cette église de Sardes. Je vous montrerai qu'il y avait un restant quand même qui marchait avec Dieu, qui connaissait vraiment Dieu. Et nous parlerons de quelque chose. Nous parlerons du livre de vie. Je vous montrerai ce que dit la parole de Dieu à propos du livre de vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.